Voilà, bonjour à tous. Donc on a le plaisir de vous introduire dans le thème de ce culte. On vous propose un autre regard sur le cathé. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Alors aujourd'hui, pour vous, ce sera de savoir si vous saurez reconnaître les deux personnes qui terminent le cathé aujourd'hui, parmi toutes les photos qu'on va vous montrer. Alors je les passe d'abord l'une après l'autre. Ok, alors maintenant on va procéder au vote. Vous avez vu tous les regards qui vous ont été présentés. Alors qui c'est qui pense que c'est le premier? Pas grand monde. Qui c'est qui l'a reconnu? Ouais, juste. Qui pense que c'est le deuxième? Déjà plus de monde, qui sait? Ouais, même les parents ont retrouvé. Qui pense que c'est le numéro 3? Le 4? C'est qui le 4? C'est Monica. Le 5? Le 6? C'est qui le 6? Natania, il y en a une qui est douée là-bas au fond. Le 7. Suzanne, ouais. Le 8. Qui c'est qui a une idée? Ouais, c'est juste, hein. Bon, et puis le 9, on oublie. Ok, alors je voulais juste vous introduire par rapport au thème de ce culte sur le regard, sur la vision, au travers de ce petit montage photo. Maintenant, c'est Suzanne et Pauline qui terminent leur cathé, donc je voulais leur faire une petite rétrospective des 2 ans de cathé en photo et anecdote. Ok, donc le début du catéchisme, c'était le premier week-end où on a commencé au lac Liaison. Ça fait maintenant il y a 2 ans exactement. Et puis moi, j'ai gardé un souvenir très particulier de Pauline et Suzanne ce week-end-là, puisqu'on est monté au pic Chaussy et que c'était absolument impossible de les faire marcher. Et je m'étais toujours dit que j'allais vous raconter ça à la fin de cathé. Elle râlait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas monter en haut, mais on a finalement réussi à les motiver jusqu'en haut. Et puis ben, nous, ça nous touche de voir l'évolution qu'il y a eu dans ces 2 ans de vous, comment vous avez passé du temps au cathé. Ça, c'était un autre week-end de neige. Ça, c'était notre dernier week-end de cette année où on a fait de la luge. Et puis je vais revenir un peu plus précisément sur le programme de cette année, ce qu'on a fait récemment. Donc ça, c'est notre équipe au complet quand on voit plus que les yeux. Donc ça, c'était la visite de la synagogue. Sauf erreur, c'était dans le dernier Marchons Ensemble, l'avant-dernier, il y avait une petite... où on racontait un petit peu ce qu'on avait fait ce soir-là. une soirée au coin du feu. C'était déjà tard. Le week-end de luge de cette année. Ça, c'était au château de Gruyère. Et voilà pour terminer sur le regard, ce court diaporama. Ok, maintenant je vais laisser la parole directement aux jeunes du Cathé.
Maître, quand est-ce que commence la nuit et finit le jour?
Voyons, essayez de réfléchir par vous-même et répondez par vous-même.
C'est quand on voit la différence entre un olivier et un figuier.
Non.
C'est quand on voit la différence entre un chien et un mouton.
Non plus.
C'est quand on voit la différence entre une rose et une tulipe.
Non plus.
Je ne sais pas.
C'est quand en regardant quelqu'un, on reconnaît en lui un frère. Avant, c'était le nez dans ton cœur.
Merci beaucoup Alexandre. Le jour, selon ce conte moyen-oriental, c'est quand en regardant n'importe quel être humain, je reconnais en lui un frère. Avant, c'était la nuit dans mon cœur. Ce matin, je souhaite vous dire quelques mots sur le regard. Juste avant, j'aimerais dire combien j'ai eu de plaisir cette année à la passer avec vous et puis avec Monique et Arnold. Sur le regard, Jésus a dit « La lampe du corps, c'est l'œil ». Si donc ton œil est bon, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. C'est Matthieu 6 au verset 22. De nos cinq sens, le sens le plus sollicité aujourd'hui, c'est très certainement la vue. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, au Cathé, on s'est dit, tiens, la vue quand même, dès le matin, des affiches publicitaires, Internet, les journaux. Je pense aussi à Facebook. Je ne sais pas, parmi vous, je m'adresse peut-être plutôt à vous devant, qui avez une page Facebook. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de savoir combien de fois par jour vous allez sur votre page Facebook. Je ne sais pas, petite question. Combien d'heures vous passez devant votre écran de téléphone portable? Combien d'heures vous passez devant un écran d'ordinateur ou de télévision? Je me suis fait cette réflexion l'autre jour parce que je me suis dit... On fait attention à ce qu'on mange, 5 fruits et légumes par jour, mais est-ce qu'on fait attention à ce qu'on regarde? Est-ce qu'on est plutôt des mangeurs d'images, toujours à l'affût d'avoir le plus d'images possible, ou est-ce qu'on vit plutôt reclus, on essaie de se protéger? Une chose est sûre, c'est qu'on est entièrement libre de regarder. Il n'y a pas de loi, en tout cas pas en Suisse, qui nous empêche de poser les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un. On a le choix de ce que l'on veut regarder et on a le choix aussi de la manière dont nous voulons regarder. Et c'est un choix qui influence forcément notre vie et forcément notre relation avec les autres. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme et bon, je pense que cette expression vient certainement du verset que j'ai lu tout à l'heure et que je vais juste relire, qui est parmi le sermon sur la montagne. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, ton corps tout entier sera dans la lumière, mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Dans ce passage, en fait, Jésus interpellait les disciples sur l'endroit où ils choisissaient de amasser leurs trésors, sur la terre ou dans le ciel. Et puis, ce verset-là précis vient juste après, finalement pour dire que le disciple doit choisir, et l'œil qui permet de finalement choisir le bon objectif symbolise le juste discernement, sinon sans lequel on se retrouve dans le noir. Et puis moi je me suis intéressée, j'ai lu le commentaire dans ma Bible commentée, et puis par rapport au terme « bon », donc « si ton œil est bon, ton corps tout entier sera dans la lumière », je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire « bon » ?» Et puis il y avait un commentaire dans la nouvelle Bible Second qui disait « bon peut aussi signifier généreux, sans arrière-pensée ». Donc si je reprends le verset, « si donc ton œil est généreux, sans arrière-pensée, ton corps tout entier sera dans la lumière ». Et ça, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, mais comment était le regard de Jésus? Alors, je crois qu'une chose est sûre, c'est que Jésus ne faisait pas l'économie du regard. D'abord, par rapport à ses disciples, il portait un regard attentif à ses disciples dès le début. Si on reprend la rencontre entre Jésus et les disciples, dès le départ, par exemple, dans Jean 1, au verset 42, il y a un moment où André amène son frère Simon à Jésus. Et le texte dit, « Jésus le regarda et lui dit, « toi, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Jésus le regarda et lui dit. Le texte dit pas simplement « Jésus lui dit, voilà, tu t'appelleras comme ça », mais le texte dit vraiment « Jésus le regarda et lui dit ». Donc vraiment, et il y a plusieurs passages dans la Bible où on voit vraiment que Jésus va regarder. Mais je crois qu'il ne regarde pas seulement ses disciples, il regarde aussi, et il n'a pas peur de regarder, les inconnus qu'il aborde dans la rue, qui viennent à lui comme ça. Et là, j'aimerais simplement qu'on lise peut-être Marc 10, verset 17 à 22, si Arnold, tu es d'accord.
Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. » Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. L'homme lui répondit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. » Alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla, tout triste parce qu'il avait de grands biens.
Vous connaissez certainement bien ce passage, je ne vais pas l'analyser plus particulièrement, mais il y a simplement quelque chose qui m'a frappé. Au verset 21, c'est peut-être un petit détail, mais il y a vraiment... Lorsque le jeune homme vient vers Jésus et qu'il lui parle juste après, c'est noté « Jésus le regarda avec amour » dans ta traduction, mais j'ai aussi une autre, « Jésus le regarda et l'aima ». Jésus le regarda et l'aima. Ce n'est pas un regard attentif, ce n'est pas un regard simplement poli, ou simplement pour parler que Jésus porte sur ce jeune homme qu'il ne connaît pas, mais c'est un regard vraiment d'amour. Et puis, juste après cet épisode, à Marc 10, au verset 46 à 52, si Monica, tu es d'accord de venir?
Je vais lire Marc 10, 46 à 52. Ils arriveraient à Jéricho, lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples, une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assise au bord du chemin et mendiait. Quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches et lui disaient de se taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vient vers Jésus. Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin.
Jésus regarde, il aime et puis il guérit. Son regard, tout comme ses gestes, c'est un regard qui répare ce qui est abîmé et qui permet aux hommes de retrouver leur dignité. Moi, je me suis posé deux questions principales quand j'ai lu ces deux textes et en réfléchissant par rapport au thème. Le premier, c'est que je me suis... en principe, quand je lis un passage de la Bible, j'aime bien me représenter en fait, la scène comme une scène de cinéma et comme une spectatrice. Puis là, je me suis dit, mais tiens, si moi j'étais là, si j'avais été là sur un chemin de Palestine et si j'avais rencontré Jésus, qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais été comme le jeune homme riche ? Est-ce que j'aurais été regardée avec amour et puis je serais peut-être partie triste ? Ou est-ce que j'aurais été pleine de joie comme Bartimée ? Est-ce qu'il aurait pu me guérir ? Je me suis posé ces questions et puis je me suis demandé, est-ce que nous nous laissons regarder par Jésus ? Et si on le fait, est-ce que, du même regard que lui a posé sur ces personnes qu'il a rencontrées, est-ce que nous aurons quelque chose à découvrir ? Dans tous les deux cas, en tout cas, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que Jésus porte sur moi un regard d'amour. Et puis ensuite, je me suis bien sûr posé la question de savoir s'il est possible de regarder l'autre comme Jésus le regarde, de regarder l'autre non pas comme un modèle, ni comme un rival, mais comme un frère, comme dans le sketch que vous avez joué tout à l'heure. Reconnaître en l'autre un frère. Et je pense que c'est pas simple. Surtout, moi je pense que ce soit à n'importe quel âge, que ce soit à l'adolescence où c'est clair que le regard des autres est pas facile, mais même par la suite, aujourd'hui on a plutôt tendance dans la rue peut-être à baisser les yeux, à pas regarder les autres. Mais Jésus il a pas fait comme ça, je crois pas qu'il a baissé les yeux. Et puis surtout, il n'en est pas resté aux apparences. Il a regardé chacun sans distinction, que ce soit un homme, une femme, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit sain d'esprit ou fou, malade ou en bonne santé. Son regard a été puissant et je crois que son regard est nécessaire pour ne pas être dans le noir, comme tout à l'heure, pour être au jour. Et je crois aussi qu'on a le choix, grâce à lui, grâce à l'Évangile, de reconnaître l'autre comme notre prochain, de le voir comme une image de Dieu. Et moi, j'ai vraiment la mauvaise habitude des fois de mettre des étiquettes sur les gens, de mettre mes projections. Mais je crois que vraiment Jésus nous dit, mais regardez l'autre comme une image de Dieu, donc comme un mystère, donc quelqu'un sur lequel je ne peux vraiment pas, que je ne peux pas réduire, je ne peux pas mettre dans une petite boîte. Dieu nous invite à ne pas fermer les yeux, donc, mais à nous regarder nous-mêmes et regarder les autres à sa lumière. C'est, je crois, un nouveau regard que, si nous le recherchons, nous permettra d'aimer. J'aimerais conclure avec une prière de Michel Coast sur le thème du regard. Merci Seigneur pour mes yeux, fenêtre ouverte sur le grand large. Merci pour le regard qui transporte mon âme, comme le rayon généreux conduit la lumière et la chaleur de ton soleil. Fais que mes yeux soient clairs, Seigneur, et que mon regard tout droit donne fin de pureté. Fais qu'il ne soit jamais un regard déçu, désabusé, désespéré, mais qu'il sache admirer, s'extasier, contempler. Donne à mes yeux de savoir se fermer pour mieux te retrouver, mais que jamais ils ne se détournent du monde parce qu'ils en ont peur. Donne à mon regard d'être assez profond pour reconnaître ta présence dans le monde et fais que jamais mes yeux ne se ferment sur la misère des hommes. Que mon regard, Seigneur, soit net et ferme, mais qu'il sache s'attendrir et que mes yeux soient capables de pleurer. Fais que mon regard ne salisse pas celui qu'il touche, qu'il ne trouble pas, mais qu'il apaise, qu'il n'attriste pas, mais qu'il communique la joie, qu'il ne séduise pas pour retenir captif, mais qu'il invite et entraîne à se dépasser. Fais qu'il gêne le pécheur parce qu'il les reconnaît à lumière, mais qu'il ne soit un reproche que pour encourager. Fais que mon regard bouleverse parce que c'est une rencontre, la rencontre de Dieu. qu'il soit l'appel, le coup de clairon qui mobilise tout le monde sur le pas de sa porte, non à cause de moi, Seigneur, mais parce que tu vas passer. Pour que mon regard soit tout cela, Seigneur, une fois de plus aujourd'hui, je te donne mon âme, je te donne mon cœur, je te donne mes yeux, afin qu'en regardant les hommes, mes frères, ce soit toi qui les regardes et de chez moi leur fasse signe. Pauline et Suzanne, on a beaucoup aimé cette prière et puis on va vous la donner tout à l'heure, donc avec Monica et Arnold, tout spécialement pour vous. Pauline et Suzanne, tout le mystère de la vie est dans vos yeux, il suffit de les exercer à percer l'apparence des choses. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde sous son regard d'amour.